sans équivoque affirmer que la commune ou le PCI jouit d'une certaine liberté en matière d'intégration des patrimoines dans son PLU ou PLUi. La collectivité peut identifier et, le cas échéant, protéger plus ou moins d'éléments patrimoniaux dans sa planification urbaine. Elle règle elle-même le curseur de son ambition patrimoniale, même si associations de protection du patrimoine et juridictions peuvent avoir leur mot à dire. Néanmoins, au sein de cette liberté sous surveillance, une exigence s'impose. La cohérence du dossier de PLU en matière patrimoniale. Le document d'urbanisme doit tenir un discours homogène dans l'ensemble de ses pièces. Cette contrainte n'est pas spécifique à la thématique du patrimoine. Elle s'impose avec plus ou moins de rigueur pour la totalité des items dont doit se saisir la planification urbaine. Cependant, elle résonne particulièrement en matière patrimoniale, car elle pose la question du rapport entre connaissance, discours politique et traduction juridique. La collectivité ne peut, sans encourir un risque contentieux, s'autoriser un grand écart entre une forme de célébration de sa richesse patrimoniale dans les documents non opposables du PLU, rapport de présentation et PADD, et un silence quasi total dans les pièces strictement réglementaires. La disproportion entre un niveau de connaissance et de reconnaissance du patrimoine dans le PADD et une absence de protection juridique par le règlement et les zonages pourrait être sanctionnée par le juge. Elle l'a été par exemple il y a 10 ans, lorsque la juridiction administrative a annulé entièrement le PLU intercommunal d'un territoire d'environ 200 000 habitants, et ce pour plusieurs raisons, dont l'une d'elles reposait précisément sur le manque d'ambition mais aussi de cohérence du PLU en matière de patrimoine bâti. Le juge souligne en effet, dans un premier temps, qu'une des orientations majeures définies par le PADD est de développer une organisation multipolaire prenant notamment appui sur une mise en valeur des richesses patrimoniales, entendues comme le secteur historique central, mais aussi comme l'architecture vernaculaire présente sur le territoire intercommunal. Mais il ne peut ensuite que constater que la collectivité s'est bornée à recenser 6 quartiers, rapidement présentés, sans finement développer la richesse patrimoniale présente au sein des espaces concernés, ni la méthodologie de sélection des éléments patrimoniaux retenus. Dans cette optique de cohérence de la politique patrimoniale au sein du PLU, la collectivité doit apporter un soin particulier à la rédaction du document ou d'explication des choix, qui constitue l'un des chapitres du rapport de présentation. Ce document stratégique du PLU ne constitue pas le sésame pour toutes les options retenues par la collectivité. Mais il doit lui permettre d'expliquer en particulier les critères de sélection ayant conduit d'un recensement patrimonial parfois très large à une liste d'éléments, des immeubles remarquables, ensembles séquentiels, espaces paysagers, etc., des éléments intégrés dans les règlements écrits et graphiques ou parfois dans les OAP. Les explications apportées par ce document de justification des choix reposent alors tant sur des critères méthodologiques que sur des options politiques liées au choix de la collectivité en termes d'aménagement urbain. Ce document constitue ainsi un support majeur de formalisation de la cohérence du PLU en matière de patrimoine, mais il est aussi le reflet d'un équilibre entre un discours politique engagé sur cette question et la traduction juridique qui doit en découler. Car encore une fois, à quoi bon entrer une richesse patrimoniale dans un document réglementaire si l'objectif n'est pas de lui donner à ce titre une protection juridique ? Le PLU n'est pas un document de communication ni de marketing territorial. Et il ne doit pas servir à faire du greenwashing patrimonial.